Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, bien-être, c'est comme chaque jour jusqu'à midi. Alors aujourd'hui Julia, on va parler de quoi ?
Eh bien on va se demander si les réseaux sociaux nous rendent davantage sociables ou si au contraire les mondes virtuels nous font perdre le sens des réalités. On va faire le point sur l'importance de ces technologies numériques dans nos vies et on verra qu'une société connectée et bienveillante est néanmoins possible grâce à quelques conseils. Et nous écouterons justement ceux de nos deux invités, le psychiatre Serge Tisseron et Jean Catan, secrétaire général du Conseil national du numérique.
Après ça, à 11h45, il y aura le quart d'heure des bienfaiteurs. On parlera d'abord protection de l'environnement avec notre spécialiste de ces sujets-là, Perrine Bramy. Elle va nous proposer aujourd'hui de mieux dormir, mais surtout de dormir plus écolo grâce aux astuces qu'elle va nous donner. Et puis il y aura aussi le coach Hakim qui sera avec nous en studio dans cette séquence. Il va mettre à mal tous les préjugés que vous pouvez avoir en tête sur la muscu. Non, c'est pas juste de la gonflette. Oui, tout le monde peut en faire en respectant quelques précautions. Il va tout nous expliquer. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bien fait pour vous, c'est tout de suite.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans Bien fait pour vous. Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à cette question. Les mondes virtuels nous rendent-ils inhumains ? Alors lui, en tout cas, il est là en chair et en os et surtout en bonne humeur, toujours de bonne humeur. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde. Je précise, je ne suis pas le coach parce qu'à chaque fois que vous présentez les invités qui arrivent, je vois nos invités qui me regardent et qui me disent si c'est lui le coach.
Il a l'air sportif.
Je ne sais pas où on est tombé. Effectivement, on va parler du monde virtuel. Est-ce que ça nous rend inhumains ? Est-ce qu'on doit se réjouir d'une robotisation de notre société ? Ça fait partie des quatre questions qui tournent en boucle dans ma tête. Les trois autres étant pour pourquoi les endroits ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ont-ils des serrures ? Est-ce que les chats prennent du plaisir quand ils nous regardent se doucher ? Ou encore, pourquoi j'arrive jamais à mettre ma clé USB du premier coup ? Bref, on va rester quand même sur les robots. Cette histoire de robots, c'est vrai qu'il en existe de plus en plus et depuis longtemps, c'est pas nouveau. Il y a eu les robots cuiseurs, vapeurs, mixeurs, les robots piscines, les robots tondeuses, les robots aspirateurs. On n'a plus rien à faire. Notre seule mission sur Terre, c'est de chercher des rallonges finalement et des multiprises. Donc, pourquoi on aime autant les robots ? C'est la première question que je me suis posée. Parce qu'ils nous font faire des tâches que nous n'avons plus à faire. Ils nous enlèvent cette difficulté. Mais alors, à quoi servent nos enfants ? C'est ce que je vais vous demander, parce que je pensais que c'était ça. On va parler également, j'espère, tout à l'heure du métaverse. Ah. Le métaverse, ce monde virtuel, basculer complètement dans autre chose. Et ça nous fait peur. Ça, on a des questions là-dessus. Sommes-nous prêts à basculer dans un monde complètement virtuel ? Moi, je sais qu'il y a 15 ans, quand déjà la Wii est sortie avec le bowling, j'ai explosé deux tables basses, ça a été compliqué. Et puis je pense qu'il va falloir du temps, il va falloir s'adapter tranquillement. Déjà depuis le confinement, ça nous a bien aidé. Nos parents et nos grands-parents utilisent FaceTime. On a découvert FaceTime. Nous, on a découvert leurs narines parce qu'ils sont beaucoup trop près. Il y a encore du boulot. Et puis, qu'en est-il des casques de réalité virtuelle ? Voilà. Imaginez autour de cette table.
Ça me donne envie de vomir.
Moi aussi.
Pour expliquer ce que c'est que le métaverse, on va s'imaginer, c'est comme si là, on était cinq autour de cette table, on se voyait exactement comme ça, on s'entendait exactement comme ça, mais on était chacun chez nous. Ou alors sur une plage, quelque part. Il ne faut pas trop donner d'idées à Julia, sinon elle va encore
partir
tous
direct
les jours.
Sur la plage.
Je vais partir sur la plage direct.
Ça peut être sympa. Et en un clic, vous pouvez changer de paysage, de rendez-vous, de faire justement tout ça. Alors évidemment, ça
vous nous changer l'ambiance là, puisqu'on est dans.
On l'a déjà fait pendant l'été. Je ne sais pas si vous avez vu, on a changé la déco à Europe 1. Alors évidemment, ça n'a pas arrangé les compagnies aériennes, mais ça peut être bien aussi pour la planète de moins se déplacer. On peut voyager depuis son salon, on peut aller à la poste, au supermarché, tout peut devenir virtuel, sauf le paiement qui, lui, sera bien réel toujours. Et puis après, on n'aura plus besoin d'une belle maison. C'est vrai que si on a un casque, on n'a plus besoin, on peut vivre dans un bloc blanc. Et enchaîner les décors, en fait, on appuie là et hop, on a chaque jour un nouveau salon.
Un peu angoissant, votre truc.
Ça peut être ça, mais c'est très angoissant, justement. Puis pareil pour notre avatar, on peut changer d'apparence tous les jours. Je peux venir
demain. Être un coach sportif, vraiment.
Je pourrais être un grand métis aux yeux verts dès demain. Donc voilà, c'est ce qui nous fait un petit peu peur. Toutes les questions qu'on se pose, est-ce qu'on va pouvoir avoir un avatar et devenir immortel ? Est-ce que je vais pouvoir prendre un jour l'apéro avec mon arrière-petit-fils ? J'attends votre émission, j'espère qu'on aura les réponses.
Merci beaucoup Clément Lanoux pour cette mise en bouche sur notre sujet de ce matin. On va à présent donner la parole à nos spécialistes. Je les présente tout de suite. D'abord le docteur Serge Tisseron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre et l'auteur du livre « Vivre dans les nouveaux mondes virtuels » aux éditions Duno. Avec nous également aujourd'hui Jean Catan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du Conseil national du numérique et co-auteur de « Nous sommes les réseaux sociaux » paru aux éditions Odile Jacob. Je vais commencer avec vous, Serge Tisseron. La technologie numérique est de plus en plus présente dans nos vies et cette tendance va s'accentuer avec les années. Pourquoi c'est un si grand sujet d'inquiétude pour nous ?
Alors, c'est un sujet d'inquiétude, c'est un sujet d'espoir. Vous avez entendu tout ce qui a été dit tout à l'heure. Dans la liste, il y avait des choses qui nous faisaient rêver.
Bien sûr.
Puis dans la liste, il y avait des choses qui nous terrorisaient. Alors, toutes les grandes innovations technologiques s'accompagnent comme ça d'une vague d'espoir et d'inquiétude. Alors, autour de la réalité virtuelle, on sait bien quels sont les espoirs. Ça nous a été rappelé, hein, voilà, pouvoir voyager, être partout, immortel, pourquoi pas. Mais les inquiétudes, c'est quoi ? Ben, les inquiétudes, c'est quand même qu'on risquerait d'oublier ben, des choses dont on sait l'importance pour l'équilibre mental de chacun d'entre nous. Oublier la nature, oublier l'activité sportive, oublier les rencontres en réalité physique. Et donc, vous voyez, toute la question, ça va être de savoir quelle place donner à cette fameuse réalité virtuelle, l'utiliser ni trop, ni pas assez, bien l'utiliser.
Jean Catan, on oppose souvent hein, le numérique, les réseaux sociaux à la réalité, la vraie vie, la chaleur humaine. Pourquoi, pourtant, tout ça a été créé par l'être humain. Pourquoi on les oppose autant alors ?
Oui, on a très longtemps parlé de monde virtuel ou de choses comme ça qui se passaient ailleurs, dans le cyberespace. Bon, c'était des langages qui étaient utiles à un moment donné, mais on se retrouve confronté à une situation où, en fait, ce n'est plus tenable, ne serait-ce que d'un point de vue environnemental. Tout ça est fait de métal, de plastique, était très dans la Terre elle-même. Et ce retour à la Terre, il est très important quand on parle de réseau numérique aussi.
Serge Tisseron, le sous-titre de votre livre, c'est « Concilier empathie oui. et numérique ». Pourquoi ? C'est deux notions qui ne vont pas du tout ensemble ?
Bah, écoutez, on a tous quand même eu l'expérience de la visio pendant le confinement. Et on s'est aperçu que c'était plus une source de quiproquo qu'une source de bonne entente. Hein, voilà, on a toujours l'impression que l'autre ne nous regarde pas, que peut-être il pense à autre chose, on n'est pas sûr qu'il nous comprenne, et puis on n'est même pas sûr de le comprendre. Donc avec la visio, on a eu une expérience des mondes numériques interactifs assez catastrophique. Mais ce qui est intéressant, justement, dans les mondes virtuels, c'est les avatars. Et donc mon livre essaye de montrer que avec les avatars, on réintroduit la dimension de l'empathie, c'est-à-dire être capable de se mettre émotionnellement à la place d'autrui. C'est impossible en visio, ça pourrait devenir possible avec les avatars.
Serge Tisseron, vous vous intéressez, on vous connaît depuis longtemps, hein, à l'impact des écrans sur nos vies depuis plusieurs années. Est-ce que les réactions sont encore aussi vives aujourd'hui quand on parle justement de la télévision en 2022 ? On a l'impression qu'on est passé bien à autre chose aujourd'hui, que ça n'intéresse plus personne la télé.
Alors, on est passé à autre chose, mais on continue à beaucoup parler de la télé par rapport aux jeunes enfants. Comme vous savez, j'ai lancé en 2006, pas de télé avant 3 ans, ça reste d'actualité. Alors, en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que jusque dans les années 2015, tous les travaux autour des médias portaient sur l'impact des images violentes sur la violence des comportements. Il y a des études catastrophiques, il y a 30% des enfants qui regardent des écrans violents deviennent violents et tout. Tout ça a été invalidé. Toutes ces recherches ont été invalidées pour erreur dans le traitement des données. Donc on est retour à la case départ. Et aujourd'hui, vous voyez, ce qui préoccupe beaucoup plus les chercheurs, c'est de comprendre, c'est moins de s'intéresser au temps d'écran ou au contenu des images, c'est beaucoup plus de comprendre comment la consommation d'écran de chacun participe ou pas à sa santé psychologique, à sa vie relationnelle, à sa santé globale.
C'est plus global. Voilà.
On a un changement de perspective complet et ça, c'est une bonne nouvelle.
Jean Catan, est-ce que vous diriez qu'on a un rapport d'amour-haine avec les réseaux sociaux et le numérique ? Parce qu'en gros, on adore les détester, mais on ne pourrait pas s'en passer.
Alors, sur la notion d'amour-haine, qui est une notion assez psychanalytique, je laisserai peut-être ça se seront développés plus avant. Mais oui, on a toujours une relation très ambivalente. Il y avait le cas des robots, évidemment, dans l'environnement du travail, même c'est des choses comme ça, tout rapport à la technologie emporte une forme d'ambivalence. Maintenant, ce qui est important et ce qu'on essaie de faire dans cet ouvrage, c'est d'arriver à distinguer un petit peu ce qu'on aimerait bien garder, ce que l'on aimerait bien développer et ce que l'on aimerait bien mettre de côté. Et ça, c'est une discussion en fait, assez collective que l'on doit avoir pour ensuite infléchir le cours que prennent les réseaux sociaux.
Merci à tous les deux. On reste ensemble. Bienfait pour vous se poursuit. Juste après, on va vous expliquer comment il est possible de vivre dans une société connectée tout en restant responsable et créatif. Les réseaux sociaux, par exemple, sont et seront surtout ce que nous en ferons. On y revient dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bienfait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. On s'intéresse au monde virtuel et notamment aux réseaux sociaux. Comment concilier empathie et numérique ? Pour en parler, nous sommes toujours en compagnie du psychiatre Serge Tisseron et de Jean Catan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Docteur Tisseron, grâce aux réseaux sociaux et à Internet, on le sait, on peut tisser des liens avec des personnes à l'autre bout du monde. Mais est-ce que le fait de ne jamais rencontrer, parfois ça arrive, on va connaître quelqu'un qui vit, je ne sais pas, aux États-Unis qu'on ne rencontrera jamais physiquement, est-ce qu'on peut dire que ça rend la relation forcément virtuelle ou elle existe ? Pourtant, on peut avoir des sentiments pour quelqu'un au bout du monde, que ce soit amoureux, amical.
Vous avez tout à fait raison. La grande erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est de confondre numérique et virtuel. C'est-à-dire qu'on a une relation à travers les mondes numériques, Mais cette relation à travers les mondes numériques peut être tout à fait authentique et tout aussi réelle qu'une relation qu'on a avec une personne en proximité. Alors vous allez me dire le mot virtuel. Alors, ben le mot virtuel, à mon avis, il devrait être réservé pour désigner l'idée que nous nous faisons d'une personne. C'est-à-dire, on entre en relation avec quelqu'un, on a une certaine idée de cette personne, et puis vous savez, il y a des gens qui sont capables d'accommoder, c'est-à-dire la personne ne se révèle pas telle qu'ils imaginaient, mais ils changent d'avis sur elle. Puis il y a des gens, la personne ne se révèle pas telle qu'ils imaginaient, mais ils ne veulent pas changer d'avis sur elle. Et donc, en fait, ils ne communiquent pas avec une vraie personne, même si elle est à 1m2, ils communiquent avec l'idée qu'ils sont de la personne. Oui. Et on peut aussi, en relation à distance, à travers le numérique, avoir une relation authentique, et on peut, avec son voisin de palier, avoir une relation virtuelle.
Et puis vous le disiez tout à l'heure, ça peut être aussi le lieu d'incompréhension, hein, le FaceTime ou le visio, mais les claviers aussi interposés. On peut parfois avoir l'impression de dire quelque chose et de ne pas être tout à fait compris, non ?
Ah ben souvent, le clavier, c'est un énorme problème. Puis vous savez, il y a sur les smartphones le correcteur orthographique qui vous fait parfois dire tout autre chose que ce
ça
que
vous
dites.
Ça vous arrive, Julien,
voilà. Et vous essayez de rattraper les choses comme vous voulez, puis des fois quand même c'est des grosses bourdes, vous êtes bien embêté. Donc on voit bien que la technologie, ça peut aider la communication, mais ça peut être aussi un obstacle à la communication.
Mais même les émoticônes, vous savez, parfois on envoie un petit baiser comme ça, et puis...
On se dirait c'est un peu trop celui-là, j'aurais dû envoyer un petit sourire, juste ça suffisait.
Voilà.
Ça vous arrive, Mélanie,
complètement. Source de quiproquo permanent dans les mondes numériques, parce que c'est très simple à comprendre. On se regarde, on se voit, on n'est pas en visio, et je suis attentif à vos regards, à votre bouche, à vos déplacements de votre corps, et tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la visio, ça n'existe pas quand on communique via un smartphone. En revanche, vous savez, il y a beaucoup de travaux pour que les avatars permettent de réintroduire cela. On en est loin, mais en tout cas, c'est une voie de recherche importante que l'avatar permette de réintroduire toutes ces petites zones de communication, avec un énorme problème quand même, il faut dire, c'est que vous ne saurez jamais si c'est vraiment vos mouvements, vos mimiques, vos regards qui sont transmis à l'avatar, ou s'il n'y a pas peut-être une entreprise entre les deux qui va modifier votre regard. Voilà. Donc beaucoup de manipulations possibles aussi, il va falloir être très vigilant.
Justement, Jean-Catan, l'anonymat que procure Internet quand on se cache derrière un pseudo, un avatar, il y a quand même un côté assez libérateur, non ? Vous en pensez quoi ? Ça nous désinhibe ? On fait des choses qu'on n'oserait pas faire en face à face ?
La distance et l'écran peuvent mettre un effet désinhibiteur en fait, sur nos comportements. Après, voilà, le terme d'anonymat, on va le garder pour des usages qui sont très particuliers et se rappeler que, en fait, quand nous sommes en ligne, très souvent, nous sommes...
Vous parlez de pseudonyme, voilà, c'est quoi la différence ?
Nous sommes sous pseudonyme, en fait. C'est-à-dire que le rattachement qui est... le rattachement entre nos comportements en ligne et notre identité réelle est tout à fait possible par le truchement, en fait, de toute une série de données qui sont collectées par les entreprises qui nous servent à nous connecter les uns aux autres, que ce soit les opérateurs de télécom ou que ce soit les acteurs que sont les réseaux sociaux.
C'est important de le rappeler aux jeunes, notamment. Oui. Ça, ouais.
C'est important de le rappeler parce que rien que de rappeler ça, en fait, ça permet d'éviter aussi beaucoup de dérives. En fait. Et expliquer ça, c'est très important. Alors maintenant, après, il y a besoin de beaucoup de coopération entre autorités publiques et les plateformes elles-mêmes pour arriver à une meilleure lutte contre les comportements qui franchissent la ligne rouge.
Évidemment. Alors Serge Tisseron, au-delà des réseaux sociaux, vous vous êtes intéressé au phénomène des jeux vidéo en ligne, qui sont très immersifs. Et là aussi, on peut se cacher derrière un pseudo, un avatar. Mais vous dites que ça a du bon pour les jeunes qui sont fans de ce type de jeu. En quoi c'est bien pour eux ?
Oui, alors on a fait des recherches là-dessus. Et on a montré en fait qu'il y a deux types de joueurs, de jeux en ligne. Il y a ceux qui vont traiter les avatars des autres joueurs comme des robots, comme des avatars, ils vont pas du tout se préoccuper de l'humain qui est derrière. Et puis il y a les joueurs qui vont se préoccuper de l'humain qui est derrière les autres avatars. Et on voit bien là comment finalement c'est aussi un choix personnel. Si vous avez envie d'ignorer vos interlocuteurs dans les mondes numériques, vous y arriverez encore plus facilement que dans la réalité. Mais si vous êtes curieux de l'identité de vos interlocuteurs, les mondes numériques ouvrent cette possibilité. Pour ça, c'est très intéressant de voir justement qu'est-ce qui fait qu'une personne, à un moment, refuse d'envisager l'humain derrière l'avatar et à un autre moment l'accepte ? Ça, c'est une grosse question de psychologie, on travaille là-dessus. Et c'est évidemment dans ce sens-là qu'il va falloir aller encourager les gens à toujours envisager l'humain derrière l'avatar.
Jean-Catan, pardon, sur les réseaux sociaux notamment, je pense à Twitter par exemple, où des gens justement vont se déchaîner en se croyant justement totalement anonymes et dire des choses qui justement sont même diffamantes. Qu'est-ce que dit la justice justement par rapport à ça au jour d'aujourd'hui ?
Alors pour reprendre une formule que j'aime pas trop mais qui quand même permet de comprendre les choses, c'est-à-dire que ce qui est interdit en fait dans la vie réelle l'est aussi sur les réseaux en ligne et il n'y a pas de mystère enfin là-dessus. Quand on diffame quelqu'un sur les réseaux, c'est exactement pareil que sur la vie réelle. Quand on fait du harcèlement sur les réseaux, c'est enfin aujourd'hui est très largement appréhendé comme un harcèlement dans la rue.
Et la justice me traitera de la même façon ?
Traitera avec un régime pénal qui est distingué dans la loi, mais oui, elle le traitera en tant que comportement délictueux. Là où il nous faut impérativement agir, c'est même beaucoup en amont, en fait, de ces comportements-là. Bien être attentif à ce qui se passe dans les établissements scolaires, par exemple. Veiller au climat, à la façon dont les gens se parlent. C'est aussi une opportunité qu'on a, de manière un petit peu réflexive, de regarder un petit peu comment on se parle. Aussi. Quel type de conversation, quel type de respect on a à l'autre ou aux idées qui nous sont différentes.
Alors Serge Tisseron, vous parlez même du mythe du double maléfique, quand on crée par exemple un compte Twitter pour dire des choses horribles et dire après, oh, c'était pas moi, c'était mon avatar. Est-ce qu'à force d'avoir justement un avatar sur les réseaux, on ne finit pas par avoir carrément un trouble de la personnalité ?
Alors, vous savez, les mondes numériques sont des accélérateurs de particularités. C'est-à-dire, si vous êtes inhibé, vous risquez de l'être encore plus, de vous sentir persécuté. Si vous avez une personnalité rentre-dedans, vous allez faire encore plus de rentre-dedans. On l'a vu pendant les réunions en visio, hein, dans des entreprises, des gens qui étaient connus pour pousser des coups de gueule, ils en ont poussé voilà, personne n'a pu les retenir, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. Si vous voulez, le numérique ne vous fabrique pas. Le numérique vous révèle.
Ça ne transforme pas quelqu'un.
Voilà, ça transforme dans le long terme s'il n'y a pas de garde-fou. Parce que les gens ont tendance à suivre leur pente dans le numérique. Voilà. Et donc, du coup, s'il y a des garde-fous, on leur rappelle que non. Et je pense que les mondes numériques vont beaucoup développer, vous savez, cette culture de l'autorisation qu'on dit maintenant. Parce que, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas du tout malmenés quand l'avatar d'un étranger passe la main à l'intérieur de leur propre avatar, puisqu'on peut passer. Et il y en a qui sont très traumatisés. Mm-hmm. Donc, il faudra demander l'autorisation. Est-ce que je peux passer
le
ma main à travers ton avatar ?
Le consentement, voilà, numérique.
Consentement. Il y aura donc probablement beaucoup de, comment dire, une culture du consentement qui va devoir se développer dans le numérique, encore plus que dans la vraie vie, avec peut-être des conséquences sur la vraie vie aussi.
Jean Catan, on a parlé là de choses un peu négatives, effectivement liées aux réseaux sociaux, au monde numérique, mais les réseaux sociaux, ça peut aussi servir à améliorer notre vie sociale. Je pense par exemple aux applis de rencontres qui ont quand même bouleversé les choses d'un point de vue sentimental. Alors, pour beaucoup de gens.
Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça nous nourrira positivement nos relations amoureuses ou autres. Ça, c'est
en
vraiment
cas, ça
le temps qui le dit.
Personnes, hein.
Possiblement des circonstances voilà, qui sont différentes pour tout un chacun. Moi, ce qui est intéressant d'observer, c'est l'enrichissement de la palette que l'on a pour converser et échanger les uns avec les autres. Vous évoquiez les émojis tout à l'heure. Enfin, on a découvert tout un registre en fait, de l'échange de l'un à l'autre par l'intermédiaire de nouveaux graphismes.
Ça,
quand on parle des mèmes, des gifs et tout ça. C'est vraiment très intéressant de se pencher là-dessus et de se dire, bah, en fait, il y a des blagues peut-être qu'on peut faire sur Twitter dans un format particulier, qu'on peut faire avec tel outil qui n'existerait pas sinon. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez drôle.
Mais Jean Catan, vous parlez également dans votre livre de ce qui se passe quand une histoire d'amour se termine, de l'après-rupture, donc 2.0, quand on doit par exemple remettre son statut célibataire sur Facebook, par exemple, ou pire, qu'on continue à voir des photos de son ex sur Insta. Franchement, c'est une torture. Avant, on n'avait pas ça.
C'est une torture, oui. Ouais,
c'est l'enfer,
torture,
ça.
Ça, c'est et on le vit toutes et tous. Et voilà, maintenant, il va nous falloir apprendre de nouveaux codes sociaux. Il va falloir que ces codes sociaux puissent être transcrits aussi dans les codes techniques. Hein, pour nous permettre de nous libérer un petit peu de ce dont on a envie de se libérer.
Ça serait bien d'interdire d'aller voir les réseaux de ses ex. Tu vois qu'il y a une loi.
Serge Tisseron, l'amour 2.0, ça a quand même changé des choses, effectivement.
Oui, ça a beaucoup changé des choses. Et je crois qu'il faut que les gens soient clairs. Je pense qu'il y a deux solutions qui sont possibles, mais il faut qu'elles soient bien posées au début. Soit on décide qu'on va se rencontrer très vite, on se rencontre dans le virtuel, mais on décide qu'on va se rencontrer très vite pour de vrai, même si c'est qu'une fois, deux fois, mais pour quand même replacer les choses dans la réalité. Soit on décide que la relation peut très bien exister sans qu'on ne se rencontre jamais. Et après tout, pourquoi pas ? On peut nouer une idylle amoureuse avec quelqu'un qui habite au fin fond du Brésil et on n'ira jamais, elle ne viendra jamais nous voir.
C'est dommage.
Mais on peut décider de vivre les choses comme ça. Vous savez, il y a quand même beaucoup de témoignages de grands écrivains qui ont tenu des relations fortes uniquement sur mode épistolaire.
C'est vrai.
Et qui n'ont jamais rencontré les dames ou les messieurs en question. Donc, pourquoi pas ?
Le nouveau romantisme. Merci à vous deux. On sera de retour avec vous dans quelques minutes. On détaille ce matin notre vie actuelle au cœur des nouveaux mondes virtuels. Et on va justement voir ce que ça implique, notamment pour les nouvelles générations, pour les jeunes. Comment les protéger ? Eh bien, on va vous donner quelques conseils. Alors, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Et puis à quoi bon ? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh.
Elle le chante bien, Angèle. Ouais, hein, oui. C'est tout à fait ce dont on parle aujourd'hui dans Bienfait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et merci si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. On parle de notre quotidien en 2022, dans cette société où les machines, les écrans sont capables de faire la conversation aussi bien que nous. On le fait avec le psychiatre Serge Tisseron et en présence également de Jean Catan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Alors, docteur Tisseron, on s'interroge évidemment beaucoup sur la question des écrans et de leur impact sur nos enfants. Vous avez développé le programme 3-6-9-12 qui valorise une exposition progressive des enfants aux écrans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste et si c'est toujours d'actualité ?
Oui, alors je vais aller très vite, mais il y a un site internet, voilà, 3-6-9-12.org pour ceux qui sont curieux. Et voilà, donc en 2006, j'ai lancé le slogan « Pas de télé avant 3 ans » avec le succès qu'on se souvient. Et puis, des parents m'ont dit « et après ?» Alors, en effet, je me suis dit « après 3 ans, 6 ans, les enfants rentrent en CP, 9 ans, 12 ans, voilà. » Donc, 3, 6, 9, 12. Et l'idée, c'est de guider les parents avec trois principes. C'est-à-dire, le premier, c'est l'alternance. On alterne les activités avec son écran. L'accompagnement, jamais laisser le moins possible un enfant seul devant un écran. Et si on le laisse seul, parler avec lui le plus possible de ce qu'il a vu avec les écrans. Et puis, l'apprentissage de ce qu'on appelle l'autorégulation, c'est-à-dire être capable d'apprendre à attendre si un enfant veut voir son programme, comme tout est enregistré, on lui fixe un horaire, on lui dit par exemple, écoute, ton temps d'écran, si tu as une demi-heure, si tu as une heure, c'est à 18h, ben t'attends jusque-là, l'enfant regarde la pendule, il apprend à attendre.
Donc, ces
trois principes permettent de fixer un certain nombre de conseils, voilà, limiter les temps d'écran, choisir des programmes de qualité, développer les activités de création, et parler avec les enfants de ce qu'ils font et voient avec les écrans. Et puis après, bon, je rentrerai pas dans les détails, mais sur le site, les auditeurs pourront voir que ça correspond en fait à des conseils très précis pour toutes les tranches d'âge 0,3, 3, 6, 6, 9, 9, 12 et au-delà. C'est pour ça que maintenant on s'appelle 3, 6, 9, 12 plus pour que chacun comprenne bien que nos conseils ne s'arrêtent pas à 12
très,
ans.
C'est très bien fait, je vous invite vraiment à aller voir sur le site internet. Jean Catan, vous êtes penché vous sur le sujet des réseaux sociaux. À partir de quel âge, alors là pour le coup on parle des enfants maintenant, peut-on autoriser un enfant? Alors bien sûr les ados, il y a des âges, il y a des âges réglementaires, on va dire.
C'est pas 13 ans.
Facebook c'est 13 ans, je crois. Bon, c'est très bien que personne ne le respecte. Enfin, même moi j'ai un fils qui avait avant, mais un Instagram, on va dire, sous contrôle parental. Mais c'est difficile de leur dire non quand tous leurs copains ont des comptes, quoi.
Non, et puis rentrer dans cette question par l'angle réglementaire, c'est aussi se priver d'un dialogue sur ce qu'on voit et ce qu'on partage, et qui va même au-delà des réseaux sociaux. Quand il y avait les vidéos de feu, par exemple, cet été, ben voilà, les enfants dans le foyer étaient confrontés à ces images, et c'est quelque chose dont on doit pouvoir parler. Donc préserver le dialogue et l'échange et l'accompagnement, c'est là vraiment quelque chose d'absolument essentiel.
Donc vous ne donnez pas d'âge?
Quels que soient les âges. Non, parce qu'en en fait, si on est sur un site de vidéo et qu'on va regarder des dessins animés avec ses enfants, en fait, on va déjà être sur un réseau social. Oui, les fonctionnalités de réseaux sociaux s'injectent dans tous les aspects de nos vies, dans toutes nos activités. Donc c'est très difficile d'arriver à une dissociation, surtout qu'il peut y en avoir qui sont faits pour les enfants en particulier.
Alors Serge Tisseron, les risques d'addiction aux réseaux sociaux, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus importants à l'adolescence ou pas? Parce que moi je vois quand même des adultes qui scrollent en permanence, là, ils ont l'air de toxico devant leur téléphone.
Alors vous savez, les adolescents, les enfants sont toujours la cible privilégiée des inquiétudes. Voilà. Mais il y a actuellement, semble-t-il, une nouvelle génération d'ados qu'on appelle la génération alpha. Vous savez, il y a eu les générations, maintenant les générations qui semblent plutôt mieux se débrouiller que les générations précédentes. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que
ils ont quel âge ceux-là, les alpha?
Alors c'est ceux qui sont nés, c'est ceux qui ont 12, 13 ans, 14 ans actuellement. Voilà. Et donc le grand problème, c'est que ils apprennent sur le tas. Donc, il faut mettre en forme des programmes scolaires pour leur apprendre à mieux utiliser tous ces médias.
Il faut de l'éducation à l'école des...
Oui, et ben, il faudra en mettre en place, il n'y en a pas, hélas. Mais surtout, il faudra arrêter de parler d'addiction, parce que le mot addiction n'est pas reconnu du tout par la communauté internationale.
Pour les jeux vidéo, je crois.
Alors, à part pour les jeux vidéo, mais dans cette situation exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il faut quand même que la personne soit totalement déscolarisé depuis plus de 12 mois. Voilà. Oui, bon. Le mot addiction est un peu partout, c'est regrettable. Il vaudrait mieux parler d'habitude comportementale. Alors pourquoi? Parce que quand quelqu'un a une addiction, si on arrête la consommation du produit, il y a ce qu'on appelle un syndrome de sevrage physiologique. Des fois, il faut même hospitaliser. Puis il y a un risque de rechute. Si vous vous sevrez de l'alcool ou du tabac, il ne faut plus toucher un verre d'alcool, il ne faut plus toucher une cigarette. Alors que tous les jeunes qui ont été accros aux jeux vidéo depuis 25 ans, ils sont pour la grande majorité d'entre eux devenus des parents qui jouent occasionnellement avec leurs camarades, avec leurs enfants. Donc il faut bannir le mot d'addiction qui est très stigmatisant et qui en plus d'un point de vue scientifique est erroné.
Jean Catan, comment on peut réguler davantage les réseaux sociaux, notamment pour protéger nos jeunes, justement? Que dit la loi en France et à qui revient cette responsabilité aujourd'hui sur WhatsApp, Twitter, Instagram?
Alors, on vit une époque qui est absolument déterminante puisque vient d'être adopté donc un règlement qui vise à encadrer un petit peu plus le fonctionnement de ces réseaux sociaux, mais aussi le rôle que peut avoir l'État dans la relation par rapport aux réseaux sociaux. Et vraiment, enfin, ce que l'on doit faire, c'est tous se mettre autour de la table. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité publique, un réseau social, une communauté d'utilisateurs qui aura la solution. Vous l'avez dit, pour comprendre les habitudes des uns et des autres, en fait, enfin, on a besoin de cet échange. Et la régulation, demain, doit intégrer cet échange à l'échelle de la société. En gros, si aujourd'hui les réseaux sociaux touchent à notre démocratie, ils doivent être objets de démocratie. S'ils touchent à ce que nous sommes, alors ils doivent être des objets de choix et nous devons pouvoir décider de nos réseaux sociaux.
Mais tout de même, vous parlez dans votre livre de TikTok qui supprimerait les posts de personnes laides ou pauvres de la plateforme. Non mais c'est dingue ça, ça va pas trop loin là quand même.
C'était un comportement qui était constaté par une enquête qui avait été faite par des journalistes. La question c'est en effet, qu'est-ce qu'il y a derrière ces choix algorithmiques qui déterminent ce que l'on voit? Et la première chose, c'est en effet d'exiger en fait, que l'on nous rende compte en fait, de la manière dont sont organisés bien tous ces contenus, mais aussi que l'on puisse choisir, avec une certaine marge évidemment de surprise que l'on va chercher sur ces réseaux sociaux, la découverte de l'autre, etc. Mais que l'on soit informé, en capacité de choisir, c'est vraiment la première chose qu'on devra exiger.
Comment on peut se protéger, docteur Tisseron, de tout ça? Comment on peut protéger nos jeunes de cette virtualité qui est en train quand même de nous submerger un peu? Est-ce que vous avez peut-être un conseil simple, puisqu'on a dit que dans cette partie-là, on parlait quand même plus de nos enfants. Quel conseil on peut leur donner? Comment on parle de ça avec eux?
Ben, d'abord, on parle avec eux.
WhatsApp, en vrai.
Oui, alors, beaucoup de parents restent encore persuadés que parce que leurs enfants sont toujours sur leur smartphone, ils en connaissent toutes les subtilités et finalement, ils n'ont pas besoin d'être éduqués à l'utilisation du numérique. C'est complètement faux. Beaucoup d'enfants sont beaucoup sur leur smartphone, mais ils sont dans des pratiques répétitives. Ils ont appris quelques trucs, ils les répètent sans arrêt. Donc, il faut vraiment ouvrir un dialogue là autour et puis développer des différentes formes d'éducation au niveau scolaire, d'éducation au niveau des politiques de la ville. Et puis, donc, en plus de développer un dialogue à l'intérieur de la famille, bien que les parents posent un cadre et notamment ne jamais utiliser le téléphone mobile pendant les repas pris en commun, d'ailleurs de façon générale pas d'écran pendant les repas pris en commun, et puis surtout interdire le téléphone mobile dans la chambre la nuit. Et la première chose que les familles devraient faire quand il y a un enfant qui vient au monde, eh ben c'est on s'achète un réveil, comme ça on peut dire, ben tu vois, moi j'ai un téléphone mobile, et ben le soir je le dépose sur la table du petit déjeuner, et c'est avec mon réveil,
Si vous n'avez pas d'enfant,
ça ne pose pas de problème, mais si vous avez un ado, il va dire ben moi je veux faire comme toi. Le problème, c'est que vous ne savez pas quelle utilisation il va faire son smartphone la nuit. Or, il faut bien comprendre que le grand problème des réseaux sociaux, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est le temps de sommeil. La grande victime des réseaux sociaux, c'est le temps de sommeil. Et c'est à la responsabilité des parents, encore une fois, en interdisant le smartphone dans la chambre la nuit.
Et en faisant de même pour soi aussi, c'est important de montrer l'exemple. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir encore davantage sur ces thématiques, je rappelle vos ouvrages, le vôtre Serge Tisseron, Vivre dans les nouveaux mondes virtuels chez Duno. Et puis Nous sommes les réseaux sociaux chez Odile Jacob, ça c'est celui de Serge Catan, coécrit avec Serge Habitboul. Voilà Julia, on passe à quoi maintenant?
Eh bien nous passons à notre séquence, le quart d'heure des bienfaiteurs. On va commencer avec Perrine Brami. Si vous avez des problèmes de sommeil, eh bien restez avec nous car Perrine va rendre vos nuits plus douces et surtout plus vertes. Ça c'est bien pratique. Et puis on va aussi parler muscu avec notre coach Hakim. Il en a marre parce que trop d'idées fausses circulent sur cette discipline, alors qu'elle est essentielle selon lui quand on souhaite se maintenir en forme. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bien fait pour vous, l'émission qui vous veut du bien. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. À suivre, c'est donc notre tour de table des bienfaiteurs et bienfaitrices avec Hakim, notre coach sportif qui est déjà là. Bonjour Hakim.
Bonjour Julia.
On va parler muscu ce matin avec vous, mais attendez, c'est pas un truc de mec la muscu, enfin surtout de mec dans votre genre quoi, un peu baraque et tout.
Aidez-moi, commencez pas comme ça. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la musculation est souvent associée aux hommes. On parle de gonflettes, on parle de tablettes de chocolat
Vous avez tout ça, vous les avez. Les tablettes, mais non, pas trop.
C'est gentil, j'apprécie, mais attention, j'y travaille et n'importe quelle personne, homme ou femme, devrait le faire aussi.
Bon, allez, vous allez nous en dire plus dans très peu de temps, on se prépare là, on va faire l'échauffement avec Julia. Avant ça, on va prendre des forces, se reposer un peu, voire faire un somme grâce au conseil de Perrine Brami. Bonjour Perrine.
Bonjour Perrine. Bonjour Mélanie, bonjour.
Alors,
à tous.
Aujourd'hui Perrine, dans votre chronique environnement, on va dormir, ou plutôt réveiller les consciences. Vous nous donnez tous vos conseils pour un sommeil plus écolo. La nuit.
Et oui, parce que la nuit est chaude, elle est sauvage, mais elle peut aussi être verte. Un dodo plus écolo, c'est possible à condition, bien sûr, de choisir matelas, oreiller, couette et linge de lit comme il faut. Et ça n'a rien d'anecdotique, hein, parce que vous savez combien le sommeil est important, hein, Julia, c'est pas à vous que je vais l'apprendre,
bah oui,
vous
qui vous levez
tôt tous les matins. On y consacre combien de temps, selon vous ?
Je crois que c'est un tiers de notre vie, non ? C'est pas ça ?
Eh bien, 25 ans, ouais. Exactement, Julia, 25 ans de notre vie, un c'est tiers énorme. De notre existence que l'on passe sous la couette. Alors, autant choisir, bien évidemment, des produits respectueux de la planète qui seront, en plus, bien meilleurs pour notre santé.
Bah, bon, moi, quand je pense sommeil, je ne sais pas vous, Mélanie, mais je pense matelas tout de suite. Est-ce qu'il existe des produits plus écolos que d'autres ? C'est quoi les bonnes matières à choisir, par exemple, Perrine ?
Alors, parmi les types de technologies les plus courantes, il y a d'abord les matelas en mousse. Hein. Ça, c'est ce qu'on trouve le plus communément. C'est léger, c'est pratique à retourner. Et puis, en général, c'est un peu moins cher. Donc, moi, je tique un peu quand même sur la mousse. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Bah, c'est du plastique, non ?
Bah, voilà, la mousse, en général, elle est d'origine synthétique. C'est du polyuréthane, c'est un dérivé du pétrole. Donc, c'est franchement pas terrible. On l'utilise d'ailleurs depuis les années 30. Et c'est ce qui est aujourd'hui le plus utilisé dans la literie.
Je crois que vous avez mousse aussi, vous, ou ressort ? Vous avez quoi ?
Moi, je sais pas.
Ouais, c'est même parce qu'elle
est bon. Alors, justement, pour le prochain matelas, je vais vous donner les conseils. C'est cette matière, la mousse, elle est totalement bannie chez les fabricants de matelas naturels. Écoutez Alexandre Tepper, cofondateur de Cosme.
Au-delà du côté synthétique, c'est des matières qui vont dégager des particules volatiles, ces différentes couches de mousse vont être collées avec une fois de plus de la colle synthétique. Donc ça dégage ça aussi des vapeurs, des particules volatiles. La grande majorité des matelas qui existent en commerce, ça va être composé de ces matières-là.
Ça fait flipper un peu. Hein
bah, en plus, quand on sait qu'on y passe entre 7 et 9 heures par jour, le nez collé dans cette pollution intérieure, il faut faire autre chose. Donc heureusement, il y a quand même certains fabricants qui réussissent à concevoir des produits en mousse un peu plus écolo. C'est le cas par exemple de Matelas Vert, qui donne dans la mousse à base de soja, avec un coutil aux fibres imprégnées d'aloe vera, ces composants qui sont plus naturels que la mousse de synthèse.
Donc certaines mousses naturelles, oui, mais pas top, si je vous suis bien, Perrine, c'est ça ?
Oui, il y a mieux, effectivement, que cette mousse naturelle. Le mieux, c'est de se tourner vers une matière 100% naturelle, le latex. Alors, il y a ceux de la marque Kipli qui valent vraiment le détour. Ils sont fabriqués en France, en Allemagne et en Italie. Et ils sont recouverts, en plus, d'une mousse lavable en coton bio. Mais attention à l'appellation latex, ça peut être trompeur, parce qu'il y a aussi des latex synthétiques qui sont dérivés du pétrole. On parle bien ici de latex entièrement naturel. Vous savez d'où ça vient, le latex ?
Non.
Ça vient d'un arbre. Écoutez les précisions d'Alexandre Tepper, toujours de chez Cosme.
À la base, le latex, c'est une matière liquide qui est récoltée sur un arbre, l'EVA. Ce latex liquide, il va être transformé pour prendre sa forme solide dans les matelas. Il va être mis dans des moules qui vont être chauffés, refroidis plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la vulcanisation. Et une fois que ça va être chauffé, refroidi, ça va bien gonfler et se stabiliser sur un état solide, qui est finalement la forme finale intégrée dans les matelas.
Donc voilà, dans ce type de technologie, pas besoin d'ajouter des produits chimiques, c'est simplement une action thermique qui va modeler le matelas. Alors il y a une autre marque qui est très attentive à l'environnement, c'est Novoli, avec des matelas qui sont fabriqués dans l'ouest de la France. Et chez Cosme, idem, votre matelas 100% naturel, eh bien, il ne va pas faire tout un long périple pour arriver jusqu'à chez vous. Il est fabriqué dans la Sarthe, c'est du made in France, donc 100% naturel, qui s'adapte à chaque dormeur.
Pour les personnes qui vont dormir sur le côté, on va conseiller des matières un petit peu plus souples, donc par exemple rester sur le latex naturel seul. Pour les personnes qui vont dormir uniquement sur le dos et par exemple avec un plus grand gabarit, on va conseiller d'avoir un mélange de latex avec une couche de fibres de coco au milieu. Si vous voulez quelque chose de frais et de très moelleux, on va utiliser du duvet de chameau.
Et ça coûte cher, ça, ou pas ?
On veut savoir le prix de tout ça.
Oui, parce que du duvet de chameau, vous vous en doutez bien, c'est des matières un petit peu plus nobles, du travail plus artisanal. Donc, c'est du quasi sur mesure et ça a un prix à partir de 1 200 € environ. Chaque produit est fabriqué à la demande, mais il y a une durée de vie un petit peu plus longue que les matelas traditionnels. Ça dure entre 12 et 15 ans en moyenne. Il y a des boutiques physiques à Paris, Nantes et Lyon. Ça, c'est bien pour tester sur place.
Eh bien, merci. Vous m'avez donné envie de dormir, Perrine. Merci.
Sur du latex, hein ?
Bah oui, sur du latex. Compris, hein. J'ai bien compris. Merci pour tous ces conseils sommeil. On est bien requinqués, reposés avec vous. Tant mieux, car on va en avoir besoin parce que maintenant on passe au sport, Mélanie, avec notre gentil coach Hakim. Enfin, gentil, c'est vite dit. Il s'est mis en tête de nous mettre à la muscu aujourd'hui.
Exactement. Et quand je dis, quand vous dites je vous ai mis en tête de faire de la muscu, c'est surtout pour les femmes. Malheureusement, la musculation aujourd'hui, séduit les hommes naturellement et un peu moins les femmes. Et je voudrais vous rassurer aujourd'hui, vous ne deviendrez pas le Arnold Schwarzenegger féminin, bien au contraire. Vous pouvez faire autant de musculation que vous le souhaitez. La nature est bien faite. Et savez-vous pourquoi ?
Non, mais moi, j'ai pas envie d'être. Moi, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'on va être baraqué.
Mais oui, Julia, on va être fuselé, mais pas gonflé.
Vous allez être sculpté. Vous allez être sculpté. Vous allez être fuselé, justement, exactement. Mais vous ne deviendrez jamais un énorme Hulk féminin.
Il y en a, on voit des femmes culturistes, là, très gonflées.
Oui,
là, donc,
alors là, c'est encore un autre débat. On parle de supplémentation alimentaire et on part sur vraiment un autre sujet. Mais je vous le dis. Aujourd'hui, les femmes, de manière générale, produisent moins de testostérone que les hommes. Donc, vous ne pouvez pas prendre autant qu'un homme pour la même séance.
Ah oui, c'est impossible. Hein.
Exactement.
On est d'accord. Mais, ouais, moi, je pensais qu'il fallait faire du cardio.
Plutôt,
non,
pour pas de muscu, juste du cardio. Ouais.
Alors justement, il y a une étude qui a été faite au Japon pour étudier justement quelle était la meilleure méthode pour pouvoir maigrir le plus vite possible.
Ah, alors, on parle d'amaigrissement, là, on parle de quoi ?
On parle d'amaigrissement, on parle de perdre du poids, tout simplement. Quelle était la meilleure méthode ? Et encore une fois, on ne parle pas des différents objectifs. Le cardio ou la muscu ou le mix des deux ? Résultat, roulement de tambour.
Bah, mix des deux, Alors, sinon, vous ne seriez pas là.
Non. Je vais vous décevoir. Au contraire, aucun des trois typologies d'entraînement n'a produit un effet supplémentaire. Exactement. Ouais. Les trois étaient pareils. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a varié ?
C'est l'alimentation. Quoi, les trois ? C'est cardio.
Cardio, le deuxième, musculation. Troisième, et le troisième, c'est
repos.
Le mix des deux. Non. Muscu plus cardio. Non. Et au fait, on s'est rendu compte que c'était l'alimentation. Qui avait un vrai impact.
Donc pas de différence de poids significative entre les trois groupes là.
Exactement.
De
vous pouvez fournir autant d'efforts sur la musculation que sur le cardio que sur les deux. Si derrière votre alimentation n'est pas optimale, encore une fois, vous n'obtiendrez pas vos résultats.
À quoi ça sert de faire du sport, Hakim ?
Parce que c'est essentiel, ne serait-ce que pour la tête, bien évidemment. C'est essentiel pour le corps, pour se sculpter, parce que la musculation, contrairement au cardio, va vraiment avoir un effet plus important sur le muscle, effectivement, et vous allez pouvoir cibler telle ou telle zone, contrairement au cardio.
D'autant plus que quand on vieillit, on perd du muscle, hein. On a besoin de fabriquer du muscle.
C'est ça, malheureusement.
On dit musculation d'ailleurs, on ne devrait pas dire plutôt renforcement musculaire, parce que mon idée à moi, ce n'est pas d'avoir des tablettes de chocolat comme vous, mais en tout cas d'avoir des muscles toniques, et vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, alors on parle de renforcement musculaire ou de musculation, les deux, alors la frontière est très fine, les deux s'apparentent à la même pratique. Maintenant, quand on parle de musculation, et vous l'avez dit en début d'émission, vous pensez au culturisme directement. Je vous en veux pas.
Nous les femmes, culturisme... c'est vrai que ça nous fait
exactement.
Penser à ça.
Mais c'est une discipline à part entière. Mmh. Vraiment, comme le foot, comme le rugby, c'est un sport à part entière. La musculation, le fait d'aller en salle pour se muscler, c'est une discipline commune.
Bon, je vais faire une confidence. Vendredi, j'ai fait ma première séance de musculation de ma vie.
On en a entendu parler.
Non, mais... j'ai mal partout encore, en fait. Donc voilà, je suis pas prête de recommencer. Mais bon. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que j'étais la seule femme. Il n'y avait que des hommes autour de moi.
Oui, alors il y a encore un autre effet. C'est vrai que la pratique sportive en salle de sport freine un petit peu aussi les femmes. Il y a le regard des autres, il y a le fait de ne pas vouloir ou pas savoir comment faire les mouvements.
J'ai demandé beaucoup de conseils au coach qui était là. Hein. Alors, c'était pratique.
Ça, c'est très bien. Ouais. Ça, c'est très bien parce que ça évite de se blesser.
On peut se faire mal, c'est ça.
Exactement. Et c'est la différence aussi avec le cardio. Alors, quand je dis cardio, c'est vraiment une activité physique, j'allais dire classique, type running, on va dire, on va prendre cette.
Ou vélo,
exactement. Ouais. On aura plus, malheureusement, de chances de se blesser à la musculation, puisque les mouvements sont plus techniques, requièrent un peu plus de connaissances, de savoir, et il va falloir manipuler des objets lourds ou plus ou moins lourds. Donc, il va falloir vraiment être accompagné d'un coach pour bien démarrer.
Et si on veut avoir des résultats, justement, parce que bon, j'ai commencé une fois, mais au bout de combien de temps, je vais voir que mes bras seront un peu plus fermes. Il faut combien de temps pour avoir des résultats ?
Si je vous annonçais tout de suite une durée, maintenant, je serais soit l'homme le plus riche de la planète, soit le plus gros charlatan.
D'accord.
Et comme je suis aucun des deux, j'ai envie de vous dire que chaque cas est particulier. Vraiment, votre corps réagira d'une manière différente, Julia réagira d'une manière différente.
Mais est-ce que j'aurais pas moins... Vous me voyez tel que je suis,
oui,
moi. Je suis pas comme Mélanie. Est-ce que j'aurais pas intérêt, moi, à me sécher en faisant du cardio d'abord et faire de la muscu après ?
Alors non, vous devez faire les deux. C'est vraiment la complémentarité des
deux. Laissez tomber, vous n'avez pas le choix.
Non, vous n'y arriverez pas. Vraiment, ça va être le cardio et la musculation. Mais j'ai envie de vous dire...
Laissez tomber, acheter un matelas en latex.
Non, vous reposerez après votre séance de sport. Mais c'est important de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Donc si vraiment le cardio, j'allais dire, vous amène un peu plus de plaisir et vous permet de vous dépasser un peu plus, allez-y, foncez.
Mais moi, aucun des deux m'apporte du plaisir, mais je le fais parce qu'il faut le faire.
Mais si je cours une heure, je vais finir par me muscler ou pas du tout ?
Bien sûr, attention. J'ai pas dit que le cardio ne musclait pas, pas du tout. Loin de là, le cardio, bien évidemment, si vous courez, vous courez quand même sur vos membres, les jambes, les fesses, les abdos sont sollicités, les fessiers, les quads, tout. Mais la spécificité de la musculation est d'appuyer sur un groupe musculaire.
Et on prend vraiment du plaisir à faire de la musculation. Il vient au bout de combien de temps, le plaisir, alors qu'on a une séance ?
J'ai bien compris que vous, en tout cas, il ne venait pas
j'ai
au bout d'une séance.
J'ai juste mal, j'ai mal partout.
Mais
quoi.
C'est exceptionnel, ouais. C'est une douleur qui s'apprécie, ça. D'accord. C'est justement le goût de l'effort.
Et au bout de combien de jours on peut refaire quand on a des courbatures comme ça, la musculation
attendre. Il ne faut pas attendre plus de 3 jours pour enchaîner sur une autre musculation. Une autre
est-ce qu'il faut c'est boire reparti. Beaucoup de l'eau hein.
Il faut s'hydrater. Bien évidemment, la récupération est très importante. Et surtout, n'ayez pas peur de faire une séance sur vos courbatures. Il n'y a aucun problème à ça.
Je pensais que ce n'était pas conseillé.
Moi, je pensais que c'était dangereux.
Non, pas du tout, pas du tout.
Et dites-moi, Hakim, on se posait la question avec Mélanie. Si on fait une séance mixte, muscu et cardio, on commence par quoi ? Muscu ou cardio ?
Alors, commencez par la muscu et finissez par le cardio.
Pourquoi ? Et pourquoi ?
Alors, ça va être encore une histoire d'alchimie, de sucre. Effectivement, on en parlait un peu plus tôt. Votre corps va réagir de manière plus... opérationnel, j'allais dire, si vous commencez par la musculation et si vous finissez par le cardio. Encore une fois, il faut voir quel type de musculation vous faites, combien de temps vous allouez à cette pratique, le cardio aussi, quels sont les objectifs. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas réponse à tout, ou du moins, il n'y a pas une seule réponse. Chaque réponse est différente et dépend du profil, mais faites cardio et muscu.
Bon, et tout le monde peut en faire, y compris les femmes.
Tout le monde, bien sûr, bien sûr.
Cardio et muscu ou muscu et cardio ?
Pardon, alors quand je dis cardio et muscu, c'est muscu et cardio. Mais vous parlez pour la même séance, sur la même heure. Moi, je parle de manière générale.
On y reviendra une prochaine fois, Julia. Vous avez envie de savoir d'autres choses. Merci à Kim, on va s'y mettre. Enfin, en tout cas, on a bien saisi l'intérêt pour nous, pour notre organisme. On va déjà essayer de digérer toutes ces infos et puis on verra après pour les haltères. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un moment sympathique avec nous et utile surtout. On sera de retour demain à 11h. Julia, quel sera notre programme
demain ? Eh bien, on va se chouchouter demain grâce au bienfait des plantes, une façon de se soigner qui est en réalité utilisée depuis la nuit des temps. Et encore aujourd'hui, la phytothérapie est une piste très prometteuse pour certains maux. Le curcuma pour les troubles digestifs, la guimauve pour calmer la toux. Le pouvoir des plantes n'est plus à prouver et on va vous donner quelques recettes qui ont fait leur preuve.
Pour le moment, on place à l'info sur Europe 1 car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour et quel est le programme ?
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Au programme d'Europe Midi, évidemment, l'Italie. On va revenir sur le vote en Italie. Le bloc de droite remporte l'élection et celle qu'on appelle en Italie la Meloni, Giorgia Meloni, elle va devenir première ministre. On ira sur place, évidemment, dès le début d'Europe Midi et on va rejoindre notre envoyé spécial sur place, Frédéric Michel, et puis on sera avec Alberto Toscano, qui est un politologue italien. On va décrypter ce résultat. Voilà.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.
À tout de suite.